Mais où est donc Ornicar?
Ce qu'on a beaucoup de mal à accepter, c'est le fait qu'il puisse se produire des inégalités, on pourrait dire, ethnique, sur le versant ethnico-racial. C'est-à-dire qu'il mobilise des catégories absolument taboues de la race ou de l'ethnie, voilà, des catégories qui posent fondamentalement problème dans l'imaginaire républicain.
Une émission proposée et présentée par Jean-Louis Riwal.
La plupart des recherches sur l'école ou sur la question de l'immigration à l'école ont tendance à penser que le problème, c'est la rencontre entre des élèves qui seraient rattachés à une ethnie ou à un groupe immigré, ou etc., rattachés à du passé et à des origines lointaines ou étrangères, cette rencontre entre ce groupe donc spécial et l'école.
Aujourd'hui, de l'intégration à la diversité ou les atermoiements de l'action publique, première partie.
La question de la diversité fonctionne exactement à front renversé. C'est-à-dire que là où la lutte contre les discriminations va regarder comment la société française produit un certain nombre d'assignations à l'altérité, comment la société française produit de la catégorisation ethnico-raciale qui justifie un traitement inégalitaire, et comment donc elle traite inégalement des publics, la question de la diversité essaye de substituer plutôt à cette image-là une image un peu positive, globale de la société française qui fonctionne sur un mode médiatique, c'est-à-dire qui fonctionne comme une espèce d'image de reflet de la société. On n'est pas en train de parler des processus de production des inégalités, on parle au contraire d'une espèce d'image globale que la société se donnerait, d'une image d'elle-même qu'elle cherche à se donner, une image positive d'elle-même qu'elle cherche à se donner.
Depuis une trentaine d'années, une sémantique a fleuri comme pour atténuer et orienter la problématique touchant les discriminations dans le cadre de l'action publique. On a commencé à parler d'intégration dans les années 90, de communautarisme ou de diversité dans la décennie 2000. Quel sens doit-on donner à ces mots qui montrent peu ou prou l'incapacité des acteurs publics ou de leurs représentants à définir l'acte discriminatoire ? Nous donnons la parole aujourd'hui au sociologue Fabrice Dume qui travaille à l'ISCRA, Institut social et coopératif de recherche appliquée. Ses travaux l'ont mené à explorer le champ des discriminations dans l'éducation nationale.
Moi, dans ma trajectoire, j'ai travaillé précédemment justement dans le domaine de l'action publique ou de l'expertise de l'action publique. J'avais travaillé au départ sur les questions dites d'intégration dans les années 90. C'est vraiment le thème autour duquel s'est réorganisée l'action publique depuis la fin des années 80, et avec cette idée que le problème qui se posait, en fait la réponse à ce que l'extrême droite avait imposé dans le discours public, c'est-à-dire le problème de l'immigration, la réponse c'était d'intégrer les immigrés, pour aller vite, c'est-à-dire d'exiger d'eux qu'ils se conforment aux normes de la République française, et sous couvert de les aider à cela, en fait on mettait en place des dispositifs qui eux-mêmes fonctionnaient comme une injonction normative à s'intégrer. Voilà. Donc très très tôt, moi, dans ces domaines-là, on me commandait des études qui portaient sur les jeunes immigrés, sont-ils intégrés, comment faire pour les intégrer, etc. Et ce qui apparaissait très clairement à travers ces travaux empiriques, c'est que la question de l'intégration au sens de nécessité de normaliser les jeunes n'avait aucun sens. Qu'ils étaient là, ils étaient citoyens, ils partageaient les codes, voilà, simplement ce qu'ils n'arrivaient évidemment pas à supporter, on le comprend bien, c'est le fait d'être sans cesse altérisé, sans cesse renvoyé à une question de migration, alors qu'eux, ils étaient là, ils étaient français, ils avaient grandi ici.
Avec cette expression qu'ils appréciaient mal, et on peut le comprendre, lorsqu'on les désignait par deuxième, troisième génération.
Alors, il y a une partie qui s'est retrouvée dans cette idée-là, avec cette idée un peu qu'on a entendue dans les mouvements antiracistes, de dire « nous sommes tous des enfants d'immigrés », etc. Donc, bon, espèce de globalisation de cette question, mais je pense que ça n'a pas été un thème véritablement politique, parce qu'effectivement, c'est une façon de nommer qui continuait à altériser, qui renvoyait finalement toujours à une question, à quelque chose comme la migration, donc qui renvoyait toujours à une porte jamais fermée pour ces jeunes-là.
Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de moi.
la question de la discrétion, elle arrive là, c'est-à-dire dans une espèce de retournement de perspective où on s'intéresse non pas aux problèmes de normalisation des publics, mais à cette exigence incessante et infinie de normalisation, alors même que ça sert à repousser la reconnaissance de la citoyenneté. Le processus de discrimination, c'est tous ces pratiques, finalement, très concrètes, très, très opérantes, j'ai envie de dire, dans la réalité quotidienne, dans le fonctionnement banal des institutions, dans les routines du travail, qui conduisent finalement à ne pas reconnaître comme un égal un certain nombre de catégories publiques, à les maintenir dans une position qu'on pourrait dire, dans la sociologie d'éthicité, une position de minoriser. Donc voilà, la question elle s'est construite comme ça, pour moi dans mon parcours, le constat empirique que la question de l'intégration était en fait une question idéologique et pas tellement une question pertinente du point de vue empirique, et que par contre d'un point de vue empirique il se posait vraiment des questions de processus de discrimination. Alors, de fait, moi mes premiers travaux sur ces questions-là, ils étaient dans les années 90, donc dans une période où la doxa républicaine sur l'intégration rendait impossible de nommer les discriminations, de les reconnaître.
Je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, où mes sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Pour quelle raison il est impossible, ou il était impossible dans les années 90, de questionner, voire de critiquer au sens, je vais dire, positif, c'est-à-dire d'émettre des questions, de problématiser la question de cela?
Je pense qu'il y a probablement plusieurs niveaux de réponse. Bon, j'en pointerai au moins trois. Le premier, c'est qu'on est dans une période où on essaye d'imposer une nouvelle thématisation des politiques publiques, l'intégration. Donc ça fait un peu désordre d'arriver avec un discours un peu inverse, hein, qui vient dire mais cette entrée-là n'est pas pertinente. Hein. Donc il y a un effet, à un moment donné, d'imposition où il faut minimiser toute autre définition possible de la question politique. Deuxième effet un petit peu général, c'est que quand on pose la question des discriminations et qu'on s'intéresse à la responsabilité des institutions publiques particulièrement, mais aussi du patronat, etc., ça fait un petit peu désordre, hein, dans un environnement et un contexte où on essaye de promouvoir des logiques d'insertion sur un mode très consensuel, c'est-à-dire dire finalement, allez, tout le monde du côté de l'entreprise, tout le monde du côté de l'institution publique pour refaire le vivre ensemble. Voilà. Et c'est évidemment ce front critique qui arrive dans la question de la discrimination, là aussi, il est, j'ai envie de dire, un peu désagréable à assumer et à entendre du point de vue de l'institution publique. Voilà, mais ça, j'ai envie de dire, c'est des réponses un petit peu banales, un petit peu générales. Il y a quelque chose qui est bien plus profond et qui, à mon avis, a bien plus d'influence, c'est qu'à partir des années 80, notamment, le contexte politique et le discours politique se redessinent. Et ils se redessinent d'abord, notamment sous la pression du Front National, ou sous la pression de la montée d'extrême droite, qui impose effectivement dans le débat public le terme de immigration ou l'idée d'immigration comme problème, voilà, qui va, c'est des travaux de Simone Bonafous, qui montre à un moment donné cette diffusion très, très, très claire sur l'ensemble de l'échiquier politique, hein, une espèce de consensus global autour de cette question-là. Alors, on est dans un contexte où il y a une espèce de racialisation montante, finalement, hein, de ces questions-là, à travers cette idée de problème d'ethnicisation ou de racialisation, à travers cette idée d'immigration comme problème.
Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore, rien me blesse. Et pourtant, j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Pourquoi suis-je si radical? Me méfie des mains tendues trop amicales. Aucune tendresse pour mes tours verticales, ni la bonne humeur de mon île tropicale. Tout ce que j'énumère n'a aucun humour, est noir et amer, froid et sans amour, fade et sans saveur, et a dans son sommaire un lexique et une grammaire pour cracher sur leur mère. Pourquoi suis-je si marginal? Épouse la cause du faible de façon machinale, ne vois que du complot dans les lignes du journal, n'arrive à dormir que dans un bruit infernal. Puisque j'ai les nerfs, l'impression qu'on m'ignore, et que de toute manière on en veut à ma crinière, c'est sans aucune lumière que je sors de ma tanière, avec un poignard imprimé sur la bannière.
Et ce processus-là va appeler, et on va le voir très très clairement à partir du début des années 2000, enfin, avec une offensive politique et idéologique extrêmement forte à ce moment-là, ce qu'on appelle un retour un peu de l'ethno-nationalisme, c'est-à-dire d'une conception nationaliste de la République ou de la citoyenneté qui se réfère à une espèce d'origine éternelle de la France. Hein. Je vais prendre un exemple pour dire un peu comment travaille ce discours ethno-nationaliste. C'est mon fiston qui était à l'école en CE1 ou CE2 l'année dernière et qui apprend dans ses leçons d'histoire que l'homme de Néandertal était le premier Français. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, si ce n'est qu'il y a une espèce de Français éternel hein, qui existe avant même que l'institution politique France n'existe. Voilà. Donc c'est cette idée que, dans le fond, la nation qu'on définit comme un processus historique, comme une espèce de cohésion par l'histoire commune, en fait se réfère à quelque chose de plus fondamental, de plus naturel, de plus essentiel, qui serait une espèce d'ethnie française, on disait de race française il y a encore quelques dizaines d'années. Voilà. Donc c'est ce mouvement-là qu'on voit se dessiner de façon extrêmement forte, avec des offensives politiques qui vont imposer dans le débat public de façon de plus en plus forte et très nette à partir, je le disais, du début des années 2000, des thèmes comme communautarisme, des thèmes comme repli communautaire et tous ces concepts policiers, hein, des renseignements généraux, ces thèmes-là qui vont servir à disqualifier la question de la discrimination. Donc déjà dans les années 90, la difficulté de reconnaissance, elle est liée à cette espèce de combat idéologique, hein, en disant il faut forcer la question de l'immigration à rester dans les cadres de la question de l'intégration. Et je prendrai un exemple, c'était le discours de la présidente du Haut Conseil à l'intégration au début des années 2000, Blandine Criégel, qui dans un article, enfin dans une interview, elle disait on peut reconnaître qu'il y a des discriminations en raison du sexe ou pour le handicap, etc. Mais réduire la question de l'immigration à ça, c'est vraiment pas possible. Pour l'immigration, c'est une question d'intégration. Alors on voit bien comme une espèce de garder le monopole, hein, de l'immigration, de la thématique de l'immigration, sous le couvert républicain de l'intégration. Là, vraiment une offensive idéologique.
Alors il y a un phénomène qui est apparu au milieu des années 90, une initiative même d'ordre politique où certaines grandes écoles se sont ouvertes à des catégories de personnes, notamment venant de territoires périphériques, on parle banlieue, cité, etc. Enfin bon, les termes en l'occurrence ne sont pas limités. Vous, comment vous percevez cette ouverture par Sciences Po notamment ou par d'autres grandes écoles à un public particulier ciblé en fonction, alors on va dire de leur territoire, mais plus particulièrement de leur origine?
Alors, il faut voir d'où vient cette initiative, parce qu'elle s'édifie, en fait, politiquement. D'abord, elle vient à un moment donné où, à partir de 1998, l'État français a reconnu l'existence de discrimination raciale, a en principe engagé l'État comme priorité d'action, et a cherché à engager le patronat et les syndicats dans le travail prioritaire sur les questions de discrimination raciale. Le résultat est, d'une part, qu'il y a une réticence très importante de la plupart des institutions publiques, et encore plus forte au niveau patronat, à se lancer dans ces questions-là. Se sont développés pour essayer de justifier cette mise à distance du problème tout un certain nombre d'arguments autour de ça culpabilise les patrons, ça culpabilise la société française, etc. Cette idée que dans le fond on ne pouvait pas aborder les choses comme ça, et puis une espèce de contre-discours qui a émergé au début des années 2000 qui disait bon, quand on travaille avec le patronat, il vaut mieux parler de choses positives, il vaut mieux mettre par exemple la diversité culturelle des publics, etc. S'est saisi de cet argumentaire-là et donc de cette question, s'en sont saisis un certain nombre de think tanks, donc un certain nombre d'officines, en particulier je pense à l'Institut Montaigne, qui est une officine néolibérale, qui était fondée et présidée par Claude Bébéard, donc grand patron, une grande figure du grand patronat néolibéral français.
À la tête de la compagnie d'assurance AXA.
Qui a été à la tête de la compagnie d'assurance AXA, et qui a vraiment eu à jouer ce qu'on appelle une entreprise politique, c'est-à-dire une tentative par ce thème-là d'une influence du champ politique pour reprendre du pouvoir sur les questions politiques. Voilà. Le programme de l'Institut Montaigne, c'est bien effectivement de proposer, comme ils disent, des solutions vues du point de vue de l'entreprise, évidemment, et du point de vue du néolibéralisme, des solutions aux problèmes politiques d'aujourd'hui. Et donc, cette officine en particulier s'est saisie de cette question et a essayé à tâtonner pour proposer finalement une autre façon de nommer les choses qui permettait de renverser la problématique. C'est finalement sur le terme de diversité que ça s'est fixé à un moment donné. Donc est arrivé entre 2003 et 2004, s'est imposé l'idée de diversité qui a finalement complètement supplanté la lutte contre les discriminations. Or, là où il me paraît vraiment important de s'arrêter, c'est que contrairement à un discours qui disait diversité et lutte contre les discriminations, la question de la diversité fonctionne exactement à front renversé. C'est-à-dire que là où la lutte contre les discriminations va regarder comment la société française produit un certain nombre d'assignations à l'altérité, comment la société française produit la catégorisation ethnico-raciale qui justifie un traitement inégalitaire et comment donc elle traite inégalement au bout du compte des publics, la question de la diversité essaye de substituer plutôt à cette image-là une image un peu positive, globale de la société française, qui fonctionne sur un mode médiatique, c'est-à-dire qui fonctionne comme une espèce d'image de reflet de la société. On n'est pas en train de parler des processus de production des inégalités, on parle au contraire d'une espèce d'image globale que la société se donnerait, d'une image d'elle-même qu'elle cherche à se donner, d'une image positive d'elle-même qu'elle cherche à se donner.
Nous étions en compagnie de Fabrice Dume, chercheur à l'ISCRA, Institut social et coopératif de recherche appliquée. Il est aussi chargé de cours à l'université Paris 7 Diderot. Il vient de coordonner une étude « Orientation scolaire et discrimination de l'inégalité de traitement selon l'origine » aux éditions de la Documentation française.